France Inter. France Inter, le 18-20, Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde ce soir, un jour dans une Amérique en guerre civile. The United States Army ramps up activity. The future president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on.
Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America?
We just try to stay out.
La bande-annonce de Civil War d'Alex Garland, qui est britannique, soit dit en passant. Un film qui sort en salle, en tout cas demain aux États-Unis, demain vendredi, ce sera la semaine prochaine en France, et qui nous montre ce pays, l'Amérique, au milieu d'une guerre civile. Les questions qu'on a envie de poser autour de cette sortie, c'est jusqu'à quel point le niveau de colère, le niveau de division dans lequel est l'Amérique réelle emmène désormais la fiction, le cinéma, la télévision, la littérature, à décrire aussi une société parfaitement mûre pour le chaos. Bonsoir Adam Nociter.
Bonsoir.
Vous êtes l'Amérique réelle, monsieur Nociter. Vous êtes journaliste au New York Times et vous êtes basé à la Nouvelle-Orléans. Bonsoir Thomas Negaroff.
Bonsoir.
Vous êtes l'Amérique de la pop culture ce soir, Thomas.
La fausse Amérique.
Voilà, fausse Amérique. Vous êtes aussi historien, ça c'est la vérité. Animateur évidemment du grand face-à-face le samedi, et j'en profite pour citer la sortie aux éditions Les Arènes et Radio France de la version livre de votre série de podcast Israël-Palestine, Anatomie d'un conflit, une version livre qui est co-signée avec Vincent Lemire. Adam Nociter, on va pas faire semblant de découvrir que l'Amérique est polarisée en ce moment, mais quelques mois avant l'élection présidentielle, quelques mois après les souvenirs du 6 janvier qui sont tellement vifs encore dans l'esprit des gens, est-ce que l'idée d'un possible chaos a fait son chemin au fond dans votre pays? Est-ce que c'est aussi ça que dit la sortie d'un film de ce genre?
Oui, c'est-à-dire que c'est une idée qui n'est pas loin du fin fond de la pensée de l'Américain moyen. On a connu une guerre civile, on a connu la guerre civile, et les questions qui ont été soulevées par cette guerre il y a 150 ans ne se sont jamais résolues, à vrai dire. Donc, l'idée d'une guerre civile aux États-Unis n'est pas totalement implausible. Ça a eu lieu.
La critique de votre journal, de New York Times, aujourd'hui, a pour titre cette phrase « Nous avons rencontré notre ennemi et c'est nous encore ». C'est comme ça que commence la critique du film Civil War. Je trouve ça extrêmement parlant sur l'époque et l'Amérique aujourd'hui.
Oui, c'est sûr que le niveau de division, de polarisation est inédite en ce moment. Il y a deux camps qui sont face à face, et il ne s'entend en rien. Tout cela est exacerbé, bien sûr, par les réseaux sociaux et une sorte de déni de la réalité qui s'est emparé d'un des deux grands partis dans notre politique. Et je parle évidemment du Parti républicain, une grande partie duquel, une grande proportion duquel de ses souteneurs sont dans les griffes d'une sorte de culte personnalité autour de Donald Trump, qui lui-même est dans le déni constant des faits. De la réalité. Il émet des mensonges à tout va de go.
Adam Nociter, pardon, vous allez rester avec nous. Je voudrais donner la parole à Thomas Negaroff. Thomas, on sait très bien que la pop culture américaine suit les inflexions du pays, évidemment. Le
voir
cinéma nous l'a montré, bien sûr. Voir, exactement, j'allais y venir d'ailleurs, voir les précèdes. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que une division de ce type-là, une guerre civile, c'est à la fois insupportable et impensable. Mais on a l'impression que l'Amérique est passée à un stade où certes c'est insupportable, mais c'est devenu pensable. Et c'est le cinéma qui le dit d'abord.
Oui, comme dit Adam Nociter, il a très, très bien vu qu'il y a une guerre civile aux États-Unis, qu'elle ne s'est jamais refermée. Hein. L'histoire des drapeaux confédérés, on en parle régulièrement aux États-Unis. Quand vous étiez correspondante, on évoquait la question du drapeau confédéré, donc ce drapeau sudiste, et ce qu'il génère comme racisme et comme présupposé. Et ensuite, les Américains, et Michael Rodgin l'a bien raconté, confronté dans les années 80, c'est un historien américain, n'ont cessé de vouloir se oublier ça, se réunifier autour d'un ennemi commun. Et donc, je vais répondre à votre question, mais dans le temps long de l'histoire, et c'est ce qu'il appelle la démonologie, on a trouvé des ennemis extérieurs. Et ces ennemis extérieurs, on leur a donné une force tellement énorme parce qu'ils pouvaient détruire l'Amérique que ça dépassait nos divisions internes. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, il n'y a plus cet ennemi extérieur et donc qu'il y a cet ennemi intérieur.
Et en même temps, pardon Thomas,
non, allez-y.
Je vous en prie, moi ce que j'ai trouvé fascinant en fait dans ce film, c'est que Adam Nociter disait on se connaît les divisions, on sait nommer les choses, mais précisément dans ce film, on ne nomme rien.
Oui.
On ne dit pas qui tue qui, on ne dit pas comment ça a commencé, on ne dit pas si c'est un président, il y a quelques allusions qui disent qu'il y a eu un troisième mandat, mais au fond, on ne sait pas si c'est un troisième mandat parce qu'il est resté au pouvoir ou parce que la guerre civile avait commencé. Donc en gros, on ne désigne pas les bons et les méchants. Un peu comme si on montrait une Amérique qui était de toute façon mûre pour le chaos. Et peu importe, en fait.
Et c'est pareil dans Le Monde Après Nous, un film Netflix avec Julia Roberts sorti il y a quelques mois, où on sentait qu'il y avait une menace extérieure, ou plutôt, pardon, intérieure. On ne savait pas vraiment qui faisait quoi, il y avait un son mystérieux. Alors, il y a bien sûr une dimension narrative, et la Dame de Citer cinéaste sait bien qu'on a besoin de mystère. Mais il y avait aussi quand même l'idée, en effet, qu'il y a un problème politique majeur, mais que la réponse n'est pas politique. La réponse, elle est hors de ça. En fait, ils sont face, comme s'ils étaient... En fait, ils sont désemparés, parce que je parlais de démonologie, c'est facile quand on a un ennemi extérieur, que ce soit les nazis, les soviétiques, le rouge, etc. On sait qui est l'ennemi. Quand il est intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que les guerres civiles sont souvent les pires. La guerre civile, on dit parfois, parce que c'est la guerre la pire, parce qu'elle traverse l'intérieur même d'une nation. Et une nation, quand elle en plus n'a pas cicatrisé les violences du passé, eh bien, il y a une espèce de réminiscence, et on sait que quand on a une cicatrice qui se rouvre, c'est pire encore que la première fois.
Adam Nociter, vous vivez dans un pays où on sait que près d'un tiers des Américains pensent encore que l'élection a été volée par Donald Trump, celle de Joe Biden, celle de 2020 en l'occurrence, où la gauche est décrite comme les super woke, ultra radicaux contre une droite qui serait quasiment organisée en milice. Ce que tout ça laisse à penser, c'est qu'au fond, ce pays est devenu assez dysfonctionnel aujourd'hui pour se retourner tout seul contre lui-même.
Je ne dirais pas que le pays est devenu dysfonctionnel. Je dirais simplement qu'une bonne partie de mes compatriotes n'ont jamais souscrit avec plein cœur au projet démocratique. Et au projet de gardiennage des droits individuels, ils n'ont souscrit qu'à mi-cœur. Donc, les plaies de la guerre de sécession du 19e siècle ne se sont jamais guéries, et en plus, la partie du pays qui a été battue a toujours, depuis, résisté au mandat constitutionnel qui ont été établis par cette guerre. Donc, pendant 100 ans, une partie du pays a résisté. Il a fallu le plein de force du gouvernement fédéral pour imposer que cette partie du pays adhère au projet de la Constitution. Et je parle des réformes des années 60. Mais tout ça a été mis en place contre le plein gré d'une bonne partie de la population qui n'ont jamais accepté. Maintenant, on voit ressurgir tous les ressentiments qui couvaient depuis cette période-là. Et en plus, comme j'ai dit avant, amplifié par la personnalité de Donald Trump, qui semble personnifier tous ces ressentiments.
Pardon.
Il dit ouvertement « Je suis votre revanche ». C'est le slogan principal de sa campagne. « Je suis votre revanche ». Votre revanche contre qui ? Il ne dit pas, mais tout le monde sait de qui il parle.
Il ne le dit pas, et Thomas Snegaroff, il y a cette phrase, vous le verrez dans le film, qui reste, parce qu'on est dans une scène où on est devant un épouvantable charnier, et la question que pose un gars qui est en armes, c'est « Quel genre d'Américain êtes-vous ? » Et est-ce que l'Amérique d'aujourd'hui n'est pas résumée dans cette phrase-là ? Quel genre d'Américain êtes-vous ?
Oui, et aujourd'hui, les réponses sont pas uniquement binaires, elles sont multiples. Et effectivement, on sent bien qu'il y a... Alors, il y a toujours eu, hein, franchement, des oppositions extrêmement fortes, des polarisations. Seulement, il y avait un camp qui écrasait l'autre. Dans les années 60, c'était le camp progressiste qui avait écrasé les conservateurs. Au début des années 80, le camp progressiste avait disparu, écrasé par le camp conservateur et libéral. Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une espèce d'équilibre des forces. Et cet équilibre des forces, c'est ça qui est destructeur. Parce qu'il n'y a pas une domination de l'un sur l'autre. Alors, on peut trouver ça formidable, mais en tout cas, c'est la réalité.
Et en même temps, dans la pop culture, dans tous ces films qui sont destinés à être des blockbusters, ce qui est fou, c'est qu'on est passé en finalement quoi, une quinzaine d'années seulement, à une Amérique triomphante, à un président qui monte dans un avion de chasse et qui sauve le monde, au Marvel et au reste, à une Amérique qui là se montre dans son plus faible état.
Oui, mais en même temps, ça a toujours raconté quelque chose. Rambo 2, donc début des années 80, c'est une historienne Susan Jefford qui le raconte, c'est qui Rambo 2? C'est un type qui n'a parce que le Congrès n'a pas voté les crédits, doit aller tout seul libérer les otages dans la forêt. Donc ça racontait aussi une Amérique néolibérale. Les films américains tendent un miroir aux États-Unis et voire parfois donnent une dimension et une direction. Et quand Reagan a vu ce film Rambo, il a dit si j'avais vu Rambo avant le Liban, j'aurais peut-être réagi différemment. Comme quoi, il y a des allers-retours permanents entre la pop culture et la culture et la géopolitique. C'est pour ça que ce film-là, Civil War, il est plutôt inquiétant pour l'Amérique d'aujourd'hui.
Et justement, Dame Nociteur, si Reagan était capable de dire « si j'avais vu Rambo avant », moi je me demande s'il n'y a pas un certain nombre de gens qui, en le voyant, notamment ceux du 6 janvier, se diront « ah ben, si on avait su, on aurait pu aller plus loin, et peut-être même du coup qu'on va aller plus loin ».
Oui, je dirais que les gens du 6 janvier incarne quelque chose qui est très répandu dans le pays, c'est-à-dire un certain mépris pour les institutions, un mépris pour les institutions de la démocratie. Trump lui-même affiche ouvertement ce mépris. Ça a toujours été présent. C'est l'esprit un peu du Wild West. Qui croit que on établit par soi-même ses propres moyens d'existence et on n'a pas besoin du système judiciaire, du Congrès, etc., etc. Donc là, vous voyez, c'est l'esprit anarchiste qui est sous-jacente dans la mentalité américaine. À l'heure actuelle, à l'heure dont je vous parle, il y a des milices qui sont campées sur la frontière de Texas avec le Mexique pour empêcher les agents fédéraux de faire leur travail. Ça, c'est l'expression la plus directe qu'on puisse avoir de ce mépris dont je parle.
Et on n'est pas loin de ce qu'on voit dans ce film, sauf que c'est intéressant, l'alliance est impossible. En fait, en l'état, c'est une alliance entre le Texas et la Californie qui semble là, pour le coup, extrêmement improbable. Mais enfin, tout de même, est-ce que vous avez le sentiment, vous, Thomas, que le cinéma, la culture populaire a parfois raison avant le réel, ou en tout cas a déjà eu raison bien avant le réel dans le cinéma américain?
Oui, parce que je sais que George Lucas aura une palme d'or à Cannes. On va reparler de Star Wars. Star Wars, c'est vraiment l'histoire d'une guerre civile américaine entre une partie de la nation qui a un désir impérialiste et de remise en cause des droits humains, ce qu'évoquait Adam Nociteur il y a un instant, et puis une Amérique républicaine fidèle au père fondateur. Et ces deux Amériques-là, à l'époque, personne n'avait compris qu'il parlait des États-Unis, mais il en parlait déjà à l'époque, dans une période post-Nixon, après la guerre du Vietnam, où il y avait déjà des tensions extrêmement fortes dans le pays. Donc oui, regardons bien et sérieusement la pop culture américaine, parce qu'elle nous dit souvent quelque chose de vrai par rapport au réel, même si ça peut être parfois une catharsis, en voyant ce qui pourrait ne pas arriver, on le met sur un écran, on peut imaginer que c'est aussi la meilleure chose à faire.
En attendant, ça s'appelle Civil War, très très réaliste, hein, filmé vraiment comme un jeu vidéo, parce que c'est de là que vient Alex Garland, et je vous le conseille juste pour vous faire une idée de ça, justement, de ce que ça veut dire que d'imaginer ce genre de situation aux États-Unis. Thomas Snegaroff, merci beaucoup. Merci. Adam Nociteur, merci mille fois, je vous rends à la Nouvelle-Orléans.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Russie où la rupture d'un barrage a créé des crues terribles et vous verrez que les habitants ici tiennent un discours sur Poutine qu'on n'entend pas souvent. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche, sous les radars.
Au Vietnam, une condamnation à mort dans une affaire financière.
Le Monde à 18h50, c'est Antoine Malo. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. L'Ukraine manque de soldats, alors elle envisage de recruter dans les prisons.
Et la tech, la première, Stéphane Jourdain. Salut Stéphane.
Bonsoir Fabienne. À quoi va ressembler notre vie dopée à l'intelligence artificielle dans quelques quelques années, l'un des parrains de l'IA moderne, Yann LeCun, nous aide à répondre à cette question.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue, il passe par Akron, Ohio, avec The Black Keys, Beautiful People, c'est un extrait de leur 12e album, tout de suite.
Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high. I get higher and higher when I'm with her.
Le reportage est en Russie ce soir. Une remontée extrêmement brutale des températures a provoqué des crues records qui ont inondé des régions entières au Kazakhstan et donc en Russie, dans le sud de l'Oural ou en Sibérie orientale. Le niveau de plusieurs cours d'eau est monté extrêmement rapidement. On a battu des records vieux de 80 ans, comme sur le fleuve Oural, qui a notamment inondé la ville d'Orsk. C'est à la frontière géographique entre l'Europe et l'Asie. 2000 maisons inondées, 8000 personnes évacuées, sinistrées même dans cette cité ouvrière. Et chose très rare en Russie, les habitants crient leur colère. Sylvain Tronchet en revient et c'est lui qui raconte.
Des centaines de personnes défilent au théâtre d'Orsk pour récupérer un colis d'aide alimentaire et quelques produits de première nécessité. Sergueï ressort avec le sien. Ce retraité n'a plus rien. Sa maison est sous 2 mètres d'eau.
Je l'ai construite il y a 12 ans. Tout était bien. C'était rénové. Et maintenant, tout est sous l'eau. Je ne sais plus comment rentrer chez moi. Je ne sais même plus où vivre. Je suis hébergé chez des amis. Merci à eux. Mais quand est-ce que l'eau va baisser maintenant? Où vais-je aller? Où vais-je dormir?
Sergueï et sa femme sont des gens modestes, à l'image de cette ville de 200 000 habitants perdus dans la steppe. Orsk, pas tout à fait sorti de l'époque soviétique, avec ses tramways brinque-ballants, ses usines qui crachent une fumée ocre et ses portraits de travailleurs méritants affichés sur la place Lénine. Anton est un journaliste de la région.
Orsk est une ville pauvre. C'est un grand centre industriel, mais malheureusement, dans les années 90, de nombreuses usines ont fermé. Concrètement, les premiers quartiers inondés, la vieille ville, sont très pauvres. Forcément, les habitants ont perdu leurs biens, ils sont choqués, ils ont peur.
Lorsque la grande inondation a eu lieu, les habitants du quartier Nickel s'inquiétaient depuis 3 jours. Ils allaient voir régulièrement le barrage de terre construit il y a 10 ans, censé les protéger. Ils semblaient donner des signes de faiblesse. Mais les autorités étaient rassurantes, se souvient Natalia.
Notre maire est venu. Il nous a rassurés. Les gars, ne vous inquiétez pas, tout est normal, tout est sous contrôle, le barrage tiendra, rien de grave. Quand le barrage a cédé, l'eau a recouvert tout le rez-de-chaussée en une seconde. Personnellement, je suis partie en pantoufle.
Au bord de l'immense lac qui est devenu leur quartier, les habitants racontent que ce barrage a été miné par les malfaçons et la corruption, des mots bien connus en Russie. Alexei ne croit pas un instant à la version du maire qui explique que ce sont les castors qui l'ont fragilisé.
Je ne sais pas comment ce barrage a été construit, si l'argent a été volé ou s'il a été conçu selon les normes. Mais si les normes avaient été respectées, je pense qu'il ne se serait pas effondré, ce barrage.
Des mots rares dans cette Russie où toute contestation est impitoyablement réprimée, mais les habitants d'Orsk sont les oubliés du pouvoir fédéral. Loin de Moscou et de ses trottoirs reluisants, eux marchent dans la boue et doivent gérer la situation sans l'aide de l'État, explique Natalia.
Nous nous sommes débrouillés tout seuls. Les gars travaillaient dans notre quartier les deux premiers jours sur un bateau à rames. C'est très difficile quand l'eau vient du barrage et qu'il y a un fort courant. Tous les habitants du quartier se sont donc cotisés pour leur acheter un bateau à moteur. Je pense que ça en dit long lorsque des gens modestes apportent de l'argent et de l'aide.
Et puis il y a les indemnisations. Combien vont-ils toucher? Personne n'est assuré ici. Les habitants d'Orsk font autant confiance aux assureurs qu'à leurs pouvoirs locaux. Alors il y a quelques jours, réunis sur la place de l'hôtel de ville, ils ont lancé un cri. Poutine à l'aide. Mais le président n'a pas scié. Il ne viendra pas à Orsk, a dit le Kremlin. Moscou, comme d'habitude, laisse les autorités locales gérer la crise. Chaque habitant vient de toucher une aide d'urgence de 100 000 roubles, environ 1 000 euros, et elles promettent qu'il y aura des indemnisations. Polina veut y croire.
L'espoir fait vivre, et j'ai vraiment envie d'y croire. Mais mon mari, qui est réaliste, dit « Je ne crois pas qu'ils paieront ». J'aimerais beaucoup que le président soit impliqué dans cette affaire, parce que maintenant, ils vont tous oublier ce qui nous est arrivé, et nous serons livrés au maire, qui nous avait promis que le barrage ne romprait pas.
Hors micro, de nombreux habitants nous disent qu'en fait, ils n'ont confiance en personne, ni à Orsk, ni à Moscou. L'image du pays uni, tout entier derrière le pouvoir, en prend un coup. Elle s'est fracassée sur le mur d'eau du fleuve Oural.
Sylvain Tronchet, pour nous, en reportage. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. C'est d'abord au Vietnam que nous sommes, Kevin, à l'issue d'un procès hors du commun.
Oui, celui du plus gros scandale financier que le pays ait connu, 25 milliards d'euros détournés via un montage entre une banque et un grand groupe immobilier. Eh bien, la patronne de ce groupe, Trong My Lan, a été condamnée aujourd'hui à la peine de mort. C'est rarissime dans ce genre d'affaires, reconnue coupable de corruption, détournement de fonds et violation de la loi bancaire. Elle a toujours nié. L'histoire est très compliquée, mais d'après la justice vietnamienne, elle aurait organisé un montage financier lui permettant, avec son groupe immobilier, de détourner l'épargne de plus de 40 000 clients de la Saigon Commercial Bank à son propre profit, le tout avec la complicité de fonctionnaires de la Banque Centrale du Vietnam qu'elle arrosait en pot de vin. C'est un énorme scandale dans le pays. Il y a eu des manifestations, des purges orchestrées par le pouvoir communiste. 85 autres personnes étaient jugées dans ce procès. Il faut préciser que l'instruction n'a duré que 5 mois. Trong My Lan va bien sûr faire appel, indique ce soir son avocat.
Et nous sommes maintenant en Suède où les fouilles au corps vont être plus fréquentes.
Oui, alors que les fusillades entre gangs se multiplient dans le pays. Encore hier soir, un père de famille a été tué par balle en banlieue de Stockholm. Le Parlement vient d'adopter une loi qui permet à la police de créer des zones temporaires où les policiers auront le droit de fouiller non seulement les véhicules mais aussi les personnes, des fouilles au corps sans aucun motif particulier, simplement en contrôlant aléatoirement. La mesure entre en vigueur à la fin du mois. Ces zones ne pourront être mises en place que pendant 2 semaines maximum au même endroit. Le texte est passé de justesse. Il faut dire qu'il est controversé, surtout en raison des détails donnés récemment par le ministre de la Justice qui affirmait que ces contrôles seraient menés sur la base, je cite, d'un profil de risque établi par les forces de l'ordre, sans en dire plus, ou, je cite encore, si une personne s'habille d'une certaine manière ou se comporte de façon anormal, fermer les guillemets, s'empressant de préciser que ces contrôles ne se feraient pas en fonction de l'ethnie des personnes. La gauche parle tout de même d'une loi raciste.
Et puis nous voici en Allemagne, dans l'ambiance feutrée d'un musée d'art moderne de Munich.
Oui, l'une des plus grandes galeries d'Europe, connue pour accueillir des Picasso ou des Dali, mais dont on parle ces derniers jours en Allemagne pour une toute autre raison. Le musée vient de licencier un de ses employés parce que monsieur est peintre à ses heures perdues et qu'il a accroché un de ses propres tableaux dans la galerie, sans évidemment demander l'autorisation à qui que ce soit. D'après la police citée par le Süddeutsche Zeitung, il voulait ainsi percé artistiquement. Il a aussi percé les murs pour accrocher son tableau lui-même. On ne sait pas combien de temps exactement il a été exposé. Le musée assure que ça n'a pas duré longtemps.
Et moi je dis c'est bien essayé.
Oui,
bravo à lui.
Il tente rien à rien.
Voilà, merci beaucoup Kevin. Vous partez en passant par le Brésil avec un immense classique de João Gilberto. O Pato, ça veut dire le canard, figurez-vous.
O Pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen.
Les canards ne font pas exactement le même bruit au Portugal. João Gilberto, au Pato, sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h50, tout pile, c'est Antoine Malouf.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Et Antoine, ce soir, vous nous parlez de l'Ukraine et de cette idée que des prisonniers vont bientôt peut-être rejoindre les rangs de l'armée.
Oui, Fabienne, et d'ailleurs, ça en dit long sur l'état des troupes ukrainiennes. Alors, cette disposition fait partie de la loi sur la mobilisation militaire, adoptée ce matin par le Parlement, après de longs mois de polémiques. Alors, attention, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Russie, quand, souvenez-vous, Prigojine, le patron de Wagner, faisait le tour des colonies pénitentiaires pour enrôler n'importe qui, y compris les meurtriers. En Ukraine, ce seraient simplement ceux qui n'ont pas commis des crimes de sang et des viols. Après, il y a un autre point dans cette loi qui paraît, lui, bien plus problématique. C'est la disparition d'une clause stipulant la démobilisation des militaires qui combattent depuis plus de 3 ans. Elle a été enlevée à la dernière minute à la demande du chef d'état-major des armées.
Et alors, en quoi c'est un vrai problème ?
Ça veut dire que ceux qui se battent depuis des mois et qui espéraient pouvoir rentrer chez eux ne le pourront pas. Pourtant, les témoignages sur le front disent tous la même chose. Les soldats sont épuisés. Or, on sait ce qui permet notamment à l'armée ukrainienne de tenir depuis plus de 2 ans, c'est la motivation de ses troupes, le sentiment qu'elles ont de se battre pour une cause juste. Pour maintenir ce degré d'implication, il faut éviter la fatigue morale du soldat, éviter aussi qu'il ait une impression d'injustice. C'est cet équilibre fragile que la loi menace.
Et alors, mais est-ce que l'Ukraine a le choix ?
Pas vraiment, en fait, parce que l'état-major veut recruter 400 000 volontaires cette année. Va bien falloir les trouver quelque part. Déjà, au début du mois, Zelensky a signé un décret abaissant l'âge de la conscription de 27 à 25 ans. Alors, on peut se dire, en regardant les rapports de pertes, que la situation n'est pas si catastrophique. Actuellement, il est de 1 pour 2. Autrement dit, quand un soldat ukrainien meurt, ce sont 2 soldats russes qui disparaissent. Comme ça, ça paraît favorable à Kiev. Sauf qu'en réalité, compte tenu du déséquilibre dans le rapport de force, ce n'est pas le cas. Surtout qu'en face, les Russes semblent disposer d'un réservoir d'hommes inépuisable. Et qu'en ce moment, ils menacent clairement les positions ukrainiennes.
C'est-à-dire ?
Là, les forces russes se concentrent sur 2 points stratégiques de la ligne de front, près des localités de Pokrovsk et de Tchassiviar. Avec un objectif, c'est de faire craquer le front du Donbass. Et puis, il y a des inquiétudes autour de Kharkiv, la 2e ville du pays, au nord-est. Elle est à nouveau bombardée en continu, elle a d'ailleurs encore été la nuit dernière. Zelensky dit craindre désormais une nouvelle offensive sur la ville, même si ça semble en réalité peu probable. Quoi qu'il en soit, pour protéger ces zones, il faut établir des lignes de défense, procéder à des redéploiements de troupes. Bref, il faut du monde. Et puis ce n'est pas le tout d'avoir des hommes, encore faut-il qu'ils aient des munitions. Et là, avec l'aide américaine toujours bloquée au Congrès, ça n'arrive pas. En Occident, il y a presque une habitude, si ce n'est une lassitude, à entendre quotidiennement Zelensky réclamer des armes. Mais derrière ça, il y a la réalité du terrain, et ce qu'elle dit, c'est que des dizaines de soldats ukrainiens continuent de mourir tous les jours.
Antoine Malo, merci beaucoup. Le jeudi, c'est l'Attaque la première, et Stéphane Jourdain avec une rencontre rare ce soir.
France Inter. Le 18-20.
Stéphane, vous avez pu interviewer hier une sommité de l'intelligence artificielle. C'est celui qu'on appelle aux États-Unis le Godfather de l'IA, le parrain de l'IA, directeur de l'intelligence artificielle à Meta, Yann LeCun. Et Stéphane, vous lui avez demandé ce que l'IA allait changer de notre quotidien dans les années qui viennent.
Oui, le parrain de l'IA, parce que Yann LeCun, c'est l'un des inventeurs du deep learning, l'apprentissage profond, sans lequel il n'y aurait probablement ni ChatGPT, ni aucune intelligence artificielle moderne. Yann LeCun, 63 ans, c'est un peu un gourou de l'IA qui a des fans dans le monde entier, on allait presque dire des disciples. Du coup, pour l'approcher, c'est digne d'un chef d'État, 2 semaines de préparation, plusieurs attachés de presse et une dizaine de coups de fil pour caler l'entretien.
Alors, le premier enseignement de l'oracle, c'est quoi ?
Alors, le premier enseignement, c'est que l'avenir de l'IA, ce n'est plus les moteurs de recherche comme Google ou les robots conversationnels comme ChatGPT, c'est l'assistant virtuel qui vous aide dans des tâches administratives du quotidien.
À terme, les gens vont plus utiliser des moteurs de recherche classiques, ils vont parler à leur assistant virtuel, et puis nous assisteront dans notre vie de tous les jours, qui serviront d'intermédiaire à toutes nos interactions avec le monde numérique, qui permettra de peut-être ne pas passer une heure au téléphone avec l'administration ou le plombier. C'est-à-dire, notre assistant parlera à l'assistant du plombier pour essayer de réparer notre salle de bain. Oui, ça fait très peu de doute.
Depuis quelques semaines, 2 assistants virtuels excitent justement beaucoup la planète tech aux États-Unis, Perplexity et Divine AI. Le premier est une sorte de copilote en ligne qui vous aide dans vos recherches numériques en ligne. Et le deuxième, une application qui vous aide à développer un site web de A à Z. C'est ça l'avenir pour Yann LeCun, des IA multiples qui vous aident dans votre vie quotidienne. Qu'on parle de traitement médical adapté à chaque personne ou de voiture réellement autonome. Et pour qu'on comprenne bien ce qui nous attend, Yann LeCun convoque l'image du manager. Ça, c'est vous, Fabienne, qui dirige une équipe d'employés. Ça, c'est l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire que le manager, le boss, détermine les objectifs pour les employés et les employés exécutent. Ça sera un petit peu le même genre de relation. On va spécifier des objectifs au système intelligent et les systèmes intelligents vont être capables d'exécuter ces fonctions mieux que peut-être la personne elle-même. Mais on voit ça tout le temps. Les managers ne sont pas forcément plus intelligents que leurs équipes de chercheurs ou d'économistes, ou etc. Chacun a sa spécialité et est probablement plus performant que la personne qui est à la tête dans chacun de ses domaines.
Alors du coup, Stéphane, on l'entend bien dans ses réponses. Yann LeCun, c'est quelqu'un de plutôt rassurant finalement pour l'avenir.
Oui, très rassurant. Vous savez qu'un débat agite beaucoup le monde de la tech. Sommes-nous sur le point de mettre au point une intelligence artificielle générale qui surpasse l'homme ? Eh bien pour LeCun, même si l'IA s'améliore de jour en jour, ce n'est pas pour tout de suite.
On est encore très loin de pouvoir reproduire l'intelligence humaine avec l'IA. Il nous manque des briques essentielles. Et donc je ne crois pas, contrairement à d'autres, qu'on aura des systèmes aussi intelligents qu'un humain moyen l'année prochaine. C'est complètement faux. Et même d'ici 5 ans, ça ne sera pas le cas.
On a encore au moins 5 ans devant nous, sans doute beaucoup plus. Pour le moment, aucune raison de s'inquiéter d'une menace existentielle pour le genre humain. Et il est donc beaucoup trop tôt, selon le dirigeant de Meta, pour parler d'un encadrement vraiment contraignant des IA.
Pour l'instant, parler de comment limiter les risques existentiels de l'IA, c'est comme parler de la réglementation du transport aérien par avion à réaction en 1920. Quoi. Ça n'a pas de sens, c'est un peu discuter du sexe des anges.
Yann LeCun est bien dans le camp des techno-optimistes. L'IA est une solution à nos problèmes et pas un amplificateur de ces problèmes. Pour lui, par exemple, l'IA, c'est la solution qui va permettre de chasser à terme tous les deepfakes d'une plateforme. Du coup, on lui a demandé pour finir de réagir aux prises de parole du camp d'en face, les pessimistes, les doomers comme on les appelle aux États-Unis. Écoutez cet ancien dirigeant d'OpenAI, Ilya Sutskever, pour qui l'IA va générer la perte de l'homme.
L'IA en soi, c'est super. Ça va régler tous les soucis qu'on a aujourd'hui, le chômage, les maladies, la pauvreté. Le problème, c'est que l'IA va aussi en créer d'autres. Les fake news, ça va être 1 million de fois pire. Les cyberattaques vont être bien plus extrêmes. Nous allons avoir des armes totalement autonomes. Je pense que l'IA a le potentiel pour générer des dictatures absolument impossibles à renverser.
C'est un extrait qu'on avait déjà passé dans la chronique. On l'a passé à Yann LeCun pour qu'il nous réponde et voici sa réponse.
J'y crois pas du tout. Ça part de cette histoire qui est fausse, qu'à partir du moment où une entité est intelligente, elle veut forcément dominer. Et ça, c'est pas vrai. C'est même pas vrai si on se restreint à l'espèce humaine. C'est-à-dire que dans l'espèce humaine, c'est pas les gens les plus intelligents qui veulent dominer les autres.
Vous voyez, voilà. Ce n'est pas toujours la chronique qui fait peur.
Pour une fois, exactement. Stéphane, merci optimiste. Beaucoup. La tech, la première, c'est tous les jeudis. Dans Un jour dans le monde, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Céline Asselot. Juste après, il y a le téléphone sonne, bien sûr. Bonsoir Fabienne Lemoyle.
Bonsoir Fabienne.
Rédactrice en chef du 18-20 toute cette semaine. Et ce soir, c'est Christophe Béchu qui est face à nos auditeurs.
Et oui, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à qui vous allez pouvoir poser vos questions au moment où, pas plus tard que mardi, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour inaction climatique. Alors, est-ce que demain, notre pays, la France, peut aussi être condamné parce que l'État n'en ferait pas assez pour lutter contre le réchauffement, pour nous protéger ? Olivier, par exemple, se demande comment l'État peut préparer des fonctionnaires à relever ce défi, alors que, selon lui, ces enjeux écologiques ne sont pas du tout abordés dans leur formation. Pour lui, l'État doit être exemplaire sur des sujets aussi concernants que le tri sélectif. Guy, lui, s'inquiète de l'utilisation des pesticides. Il veut leur interdiction parce que, effectivement, la crise agricole est encore dans tous les esprits. Et est-ce que l'environnement n'a pas été le grand perdant de cette crise ? Autre question qui vient de Bretagne, quelles sont les normes qui posent problème pour fabriquer l'eau potable ? Car on revient 15 ans en arrière avec une catastrophe sanitaire.
Ben voilà, vous êtes chaud, 01 45 24 7000, allez-y pour discuter avec nous. C'est le même numéro vers WhatsApp pour vos notes vocales ou vos messages avec les pouces.